Bonjour et bienvenue dans Je compte jusqu'à toi, votre podcast d'histoire. Ah, au fait, si vous n'aviez pas remarqué, ça fait quelques épisodes qu'il y a une fonction de chapitrage, ce qui vous permet de pouvoir passer tout mon blabla. Alors, si vous avez un fond méchant et que vous l'utilisez pour me zapper, surtout, dites bien merci à Podchapter, parce que c'est le petit programme qui me permet de le faire ultra facilement. Allez, voilà, tous ensemble, on dit merci Podchapter! Si par contre vous n'avez pas zappé, c'est que vous êtes quelqu'un de très très gentil, et voici donc rien que pour vous la suite de mon blabla. Vous l'attendiez tous, certains même beaucoup plus que moi, mais je vais d'abord y aller de mon petit speech avant de vous fournir la suite de l'histoire de Lilou. Alors c'est pas du tout parce que je sais pas où je vais, hein, vu que tous les personnages veulent tirer la couverture à eux, et du coup je meuble vachement cette intro, j'y mets beaucoup des du coup, pour éviter de me plonger à corps perdu dans l'histoire, ou encore que je ne sais pas par quel bout commencer, parce que bien sûr en tant qu'auteur, je sais exactement où va l'histoire, hein. Qu'allez-vous donc imaginer là, hein? Moi, gêné? Mais non, pas du tout, vous êtes trop marrant. Non, mais sinon, vous êtes vraiment sûr de vouloir la suite de Lilou? Vous voulez pas plutôt, je sais pas, moi, l'histoire de moi, la pieuvre géante du Pacifique qui rêvait d'aller sur la Lune? Non? Non, vous êtes sûr? Bah, je veux dire, vraiment sûr. Sûr. Ah. Oh. Enfin! Fille des digressions, j'en profite aussi pour tirer un petit bilan de ces 2 ans et demi d'histoire et de podcast. Le podcast a dépassé les 100 épisodes, ce qui fait un fameux paquet d'heures d'écoute. Il a aussi dépassé les 50 000 téléchargements, et l'épisode le plus écouté à l'heure actuelle, c'est le premier du voyage de Lilou, qui est aux environs de 1800 écoutes. Ce sont aussi deux types heureux assidus, Slur ou Slur, je suis désolée, faudra que tu m'écrives comment on dit correctement ton pseudo. Et Linda, qui participe aux frais de la caféine qui me maintient en vie depuis plusieurs mois maintenant. Mais aussi un petit nouveau, Nicolas, qui a probablement eu très très peur que je fasse de la rétention d'histoire et que je ne permette pas à ses enfants de les écouter. Hein. Comme si je pouvais être capable de faire une chose pareille. En fait, oui. Enfin voilà, merci à vous trois donc. C'est aussi des auditrices et des auditeurs, vous. Certains qui sont là depuis le début, d'autres qui arrivent à peine, mais que j'espère satisfaire tout autant avec mes histoires. Une audience principalement silencieuse, peu visible sur les réseaux sociaux, mais qui écoute et, j'espère, apprécie les histoires, que j'écris pour moi, mais aussi et surtout pour vous, pour mettre un peu de magie dans votre quotidien. Et beaucoup de gros mots dans le mien. Bah, les joies du montage, des plantages informatiques et de cette bêtise d'OBS qui ne veut pas fonctionner convenablement. Je vous remercie donc d'être là et de m'envoyer des signaux de temps en temps pour me dire que vous kiffez. De mon côté, je vais essayer de continuer à vous faire des histoires du tonnerre. Bon, maintenant que j'ai bien blablaté, il est temps de prendre une grande respiration et de replonger dans le monde de Lilou. Et si vous voulez vous remettre dans l'histoire avant le grand saut, je ne peux que vous conseiller d'écouter le résumé des 2 saisons précédentes, l'épisode juste avant celui-ci, ou même de réécouter les 2 saisons précédentes. Allez, on y va ? Place maintenant à la suite du voyage de Lilou. Mogiane est assise devant le miroir d'eau. Elle passe doucement sa main sur l'onde. Elle regarde le liquide se troubler, lui réveiller le soleil couchant, un chemin en pente douce, et Lilou maintenant ado qui avance sur le chemin vers le château, accompagné de Barbotte et de Takou. Elle les observe et réfléchit. Dans sa main, il y a une petite bourse en cuir, toute rebondie, remplie de poudre. Une poudre dorée, avec une odeur assez épicée. Une poudre que le sorcier lui a donnée, il y a déjà beaucoup trop d'années pour qu'elle ne puisse en faire le compte. Une poudre qui ne disparaît jamais et qui réapparaît comme par magie dans le petit sac une fois utilisée. Une poudre qu'elle mettait tous les soirs dans la boisson du prince. Elle en verse un peu dans la paume de sa main, la regarde songeuse. Elle joue avec en la faisant rouler entre ses doigts. Puis, Mogiane retient sa respiration et avec précaution, en prend quelques pincées qu'elle met bien à l'abri, dans un petit sac rouge sang, qu'elle ferme hermétiquement. Elle l'attache avec un lien en cuir autour de son cou, puis le met dans son décolleté, caché par sa robe verte. Ensuite, elle prend une grande respiration, la bloque, prend la bourse en cuir, l'ouvre tout grand et la retourne dans le miroir d'eau. Elle regarde la poudre descendre lentement, paresseusement. Elle crépite en touchant l'eau. L'image de Lilou avançant sur le sentier se trouble avant de s'effacer peu à peu et disparaît totalement de la surface du miroir, tandis que le petit sac de cuir semble se dissoudre en descendant dans l'eau. Dans l'eau qui devient noire, un noir profond qui semble absorber la lumière de la pièce. Elle semble aussi plus visqueuse. Une grosse rafale de vent, un coup de tonnerre retentit, faisant tout trembler dans la petite pièce cachée dans les entrailles du château. Un cri à glacer les sangs retentit. Les torches s'éteignent, l'eau déborde du puits en glougloutant, se met à couler sur le sol. Elle avance lentement vers la femme aux cheveux argentés. Glaciale, elle vient lécher les orteils de Mogiane. L'eau continue à s'écouler du miroir d'eau. Elle remonte par les parois du puits et monte doucement à l'assaut des chevilles de la femme, dans un noir d'encre. À tâtons, Mogiane se dirige vers l'entrée de la grotte. L'eau noire, tel un tentacule qui la poursuit, lentement, et semble coller à chacun de ses pas. La femme soupire, pose la main sur la paroi. Elle sort enfin du passage secret. Ce qui est fait est fait. Je ne peux désormais plus revenir en arrière. Et si je ne peux pas me libérer de la malédiction sans mourir, ainsi soit-il. Je ne veux plus dépendre du malheur des autres pour m'en sortir. Tu m'entends, sorcier ? Si tu penses gagner, crois-moi, tu te trompes. Ce n'est pas encore fini. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Ailleurs, dans une autre dimension, un homme aux cheveux gris acier, une balafre en travers du visage, regarde son propre miroir d'eau. Un sourire dur sur le visage.
Alors comme ça, tu crois pouvoir m'échapper ? Très bien, mon sortilège, ta malédiction, ne me permet peut-être pas de me déplacer jusqu'à toi, pour le moment. Mais voyons voir comment tu te débrouilles. Je suis curieux, très curieux de voir comment tu penses pouvoir me défaire.
Les jambes croisées, le regard amusé, il porte une coupe de vin à ses lèvres et en boit une gorgée. Il frôle la surface de l'eau du bout des doigts. L'image de Mogiane se trouble et disparaît. Le prince dort profondément. Un long gémissement s'échappe de sa gorge. Dans son lit, les draps sont froissés et une sueur glacée coule le long de ses tempes. Ses mains se crispent sur les couvertures. Il se réveille brusquement, s'assied sur le lit et tend le bras, comme pour attraper quelqu'un. Un cri s'échappe de ses lèvres.
« Attends !»
Son cœur bat la chamade, sa respiration est rapide. Il se frotte les yeux, les ouvre, il n'a plus sommeil. Dehors, il pleut fort. Le tonnerre gronde et le vent souffle par rafales. Il sent une chair de poule glacée remonter le long de son corps. Il se lève, allume une bougie et va jusqu'à la fenêtre. Là, il ouvre les volets et laisse le vent et la pluie de cet orage d'été lui fouetter le visage. Il ne se souvient pas de son rêve, mais il sait que c'est important. Alors, il scrute la nuit en essayant de se rappeler. En vain. L'eau dégouline de ses cheveux, de son visage, tombe goutte à goutte par terre, élargissant la flaque qui s'est formée devant la fenêtre. Dépité, le prince rejoint son lit. Il défroisse ses draps et s'allonge. Rapidement, sa respiration ralentit et il tombe dans un sommeil réparateur et sans rêve. Lilou est allongée dans un bosquet-lit. Après avoir grandi, après les souvenirs et toutes les émotions qui lui sont revenues, elle a marché, pas après pas, difficilement, jusqu'à la sécurité du petit bois. Épuisée, elle a rassemblé de quoi faire un feu et entrepris de se faire un campement pour la nuit. Les feuilles de palmier pour lui faire un toit de fortune au cas où il pleut, un matelas en aiguille-plume et les animaux contre elle. Détendue et les yeux clos, elle dort. Barbotte s'installe sur sa poitrine, montant et descendant au rythme de sa respiration paisible. La queue du chat bouge paresseusement, Ses prunelles luisent dans l'obscurité. Taku, allongé contre son flanc, regarde de l'autre côté, la queue repliée sur le museau. Les deux animaux veillent sur la jeune femme endormie. À l'extérieur de ce petit cocon, les gouttes de pluie font une berceuse agréable aux oreilles des veilleurs. Mogéane regarde se refermer le mur secret, qui mène vers la grotte au miroir d'eau. Elle sait qu'elle n'en aura plus l'utilité. Elle remonte les escaliers, s'installe dans la bibliothèque en attendant l'arrivée de l'aube. Elle aussi ouvre les volets et observe l'orage qui se déchaîne dehors. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Ainsi, il sait que je sais, et il manifeste quoi ? Son désarroi ? Sa colère ? En tout cas, ça semble montrer qu'il ne peut pas venir jusqu'ici. Et je devrais tenter d'en tirer parti. Elle allume une grande flambée dans la cheminée, prend du papier, une plume, et commence à écrire. Mais la plupart des feuilles sur lesquelles la plume danse partent se consumer dans la cheminée. Pourtant, elle continue à écrire, se frotte les tempes, réfléchit. D'autres feuilles rejoignent les précédentes dans les flammes. Quand sa dernière chandelle est sur le point de s'éteindre, elle se décide finalement à rejoindre son lit. Elle qui ne pensait ne pas pouvoir dormir, à peine sa tête posée sur l'oreiller, elle s'assoupit. Quand elle se réveille et ouvre les volets, la première chose qui la frappe, c'est le ciel bleu. Le vent souffle les derniers lambeaux de brume encore présents autour du château et les mouettes crient en passant au ras des vagues. Elle laisse la chaleur du soleil réchauffer son visage et ferme les yeux. La légère brise fait danser ses cheveux argentés qu'elle repousse derrière ses oreilles. Elle profite de ce moment de quiétude, puis elle s'habille et va rejoindre le prince. Elle entre dans la grande chambre, plisse le front devant les rideaux trempés qui danse devant le volet ouvert et regarde le prince qui dort encore et lui caresse la joue. En le faisant, elle remarque sur sa main dorée quelques flétrissures qui n'y étaient pas. Ses doigts aussi lui semblent un petit peu moins fins. Elle secoue la tête, chasse ses préoccupations de son esprit, puis elle tire sur les couvertures du prince en riant. Son sourire ce matin est moins naturel que les matinées précédentes. Bonjour mon prince, comment allez-vous aujourd'hui ? Mogéane plisse ses yeux verrons et tend une petite moue amusée en regardant le prince.
Mogéane, ce n'est pas drôle ! Allez, rends-moi mes couvertures, il est encore super tôt là !
Mon prince, comme tous les jours ou presque, il est 10 heures. Vous devriez être levé depuis longtemps.
Mogéane, tu exagères ! Je ne suis pas un gros paresseux quand même !
À vous de me le dire mon prince, il est 10 heures passées, mais vous n'êtes toujours pas levé. Le prince se lève en maugréant, passe une main dans ses cheveux bleu-vert et en plissant ses yeux dorés, cherche des habits propres, avant de sourire à Mogéane. C'est toujours le même scénario bien rodé chaque matin, depuis ce qu'il semble maintenant au prince plusieurs années. Mais il y avait quelque chose de différent aujourd'hui. Un petit quelque chose sur lequel il ne parvenait pas à mettre le doigt. Peut-être étaient ces quelques fils blancs dans la chevelure argentée de Mogéane ? Ou les toutes petites rides qu'il voit maintenant au coin de ses yeux et dont il est sûr qu'elles sont nouvelles, mais elles lui paraissent différentes. Même son sourire, pourtant semblable à d'habitude, a quelque chose de différent. Venez voir, mon prince, la brume a disparu. Je vous avais bien dit qu'il ne fallait pas vous inquiéter. Et c'est une belle journée d'été qui nous attend. Vint alors la question habituelle, le rituel entre eux. Dites-moi, mon prince, votre prénom vous est-il revenu ?
Non, toujours pas, Mogéane, je suis désolée.
Ne le soyez pas. Chaque jour qui passe vous rapproche du moment où vous vous en souviendrez. Et je suis sûre que bientôt, vous vous le rappellerez. Allez, venez aujourd'hui, je vous propose une partie de chasse. Comme la brume s'est levée, ce serait dommage de ne pas en profiter. Je vous attendrai à l'écurie. Puis Mogéane quitte la chambre du prince, le laissant seul avec ses interrogations. Effectivement, quelque chose a changé. Mais quoi ? Pendant que Mogéane descend vers les écuries, un sourire sincère passe sur son visage. Cette fois, c'est fini. elle ne se laissera plus faire, et le vieux sorcier a intérêt à s'accrocher à son sort. Elle fera tout son possible pour l'empêcher de gagner et se délivrer, elle. Elle et les deux innocents embarqués malgré eux dans cette malédiction. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager, à commenter ou à en parler autour de vous. C'est très important pour moi parce que ça me permet de me faire écouter par de plus en plus de personnes et au final c'est ce que je vise. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, @lolicompte, sur toutes les applications de podcast en cherchant simplement « Je compte jusqu'à toi » ou sur mon site lendewell.com/histoire. Histoire avec un S au bout. Merci beaucoup et à bientôt.